Simplement, pendant que vous tournez pour chercher le passage, eh bien, simplement rappeler que dans les chapitres précédents, nous avons vu les visions de Nabucodonosor au chapitre 2, du roi Nabucodonosor, et celle de Daniel au chapitre 7, qui décrivait quatre royaumes, le royaume de Babylone, celle des Mèdes et des Perses, celui de la Grèce et celui de Rome. Et au chapitre 8, ce matin, nous allons voir une deuxième vision que Daniel a eue, qui s'appelle la vision du bélier du bouc, décrivant deux royaumes. Et ces deux royaumes correspondent à deux des quatre royaumes mentionnés au chapitre 2 et au chapitre 7 que nous avons vu il y a plusieurs semaines. Si la vision de Daniel au chapitre 7 nous fournissait des informations supplémentaires sur le quatrième royaume, et ici la vision de Daniel au chapitre 8 va nous fournir des informations supplémentaires sur les deuxièmes et troisièmes royaumes. Et dans le chapitre 8, eh bien, il est bon de rappeler qu'on se concentre sur une période de 6 ans, que la plupart d'entre nous connaissons peu, c'est-à-dire de 771 à 165 avant Jésus-Christ. Et c'est une période dans laquelle les Juifs vont subir une persécution hors du commun de la part d'un roi qui s'appelle Antiochus IV et V, que la plupart d'entre nous ne connaissons pas ou n'avons probablement peu entendu parler. Et en examinant un peu plus en profondeur le chapitre 8 de Daniel, nous allons découvrir que les détails concernant cet homme qui répond au nom d'Antiochus IV et Epiphane semblent correspondre à celui qui doit apparaître juste avant le retour de Jésus et que nous appelons l'Antéchrist. En d'autres mots, si le chapitre 8 décrit une histoire ancienne, il nous apprend certaines choses concernant des événements à venir qui peuvent s'accomplir dans notre génération. Et nous sommes tous conscients, frères et sœurs, que nous vivons une période de grande confusion spirituelle. Permettez-moi de vous donner un exemple parmi tant d'autres qui provient d'un article paru il y a quelques années dans le Washington Post qui disait ceci. La Chambre de l'État du Maryland avait invité le président du Comité des finances du Sénat à prononcer la prière d'ouverture de son assemblée. Celui-ci a réussi à n'oublier personne dans cette très courte prière. Écoutez sa prière. Seigneur, Éternel, Yahweh, Jésus, Bouddha et Allah, peu importe ton nom, la couleur de ta peau, que tu sois un homme ou une femme, tu connais ces hommes politiques qui sont ici réunis dans ce lieu, tu sais jusqu'à quel point ce sont des bonnes personnes. Je prie pour eux, je te remercie de les guider dans toutes leurs discussions. Amen. Et c'était là tout le contenu de sa prière. Évidemment, plusieurs sénateurs riaient au fond de même, tandis que l'autre applaudissait. Les frères et sœurs, nous venons d'assister à une prière unique. C'est le chef de la majorité du Sénat qui dit « Frères et sœurs », en parlant des sénateurs et des sénatrices, nous venons d'assister à une prière unique et inhabituelle qui respecte toutes les croyances. Et on est dans cette période où, pour éviter d'être pour et contre l'esprit, on doit accepter toutes les croyances et tous les mœurs, finalement, qui sont dans notre société. Frères et sœurs, la lutte entre le Christ et l'Antichrist est un combat qui fait rage dans tous les cœurs, dans les cœurs de tout être humain. Et nous devons maintenant savoir de quel côté nous nous trouvons, car lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il sera trop tard à ce moment-là pour changer de camp. Il y a une lutte qui se passe dans nos cœurs pour croire soit la vérité ou le mensonge, et à chaque fois, soit que nous gagnons, nous perdons ce combat qui se passe dans nos cœurs. Finalement, ce qui importe, ce n'est pas de dire que je crois en Jésus en Bouddha et en là, mais plutôt avoir pris position pour le seul qui peut nous conduire au ciel, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans ce contexte que nous allons maintenant examiner le chapitre 8 dans Daniel. Et le chapitre se divise en deux parties. D'abord, les versets 1 à 14, on parle de la vision. Et dans les versets 15 à 27, eh bien, nous avons l'interprétation de cette vision révélée par l'ange Gabriel à Daniel. Et c'est tout ce que contient le chapitre 8, il n'y a pas à s'en sortir. 1 à 14, la vision. Et finalement, eh bien, 15 à 27, l'interprétation de cette vision. Cette vision contient des prophéties spécifiques sur des événements qui vont se dérouler plusieurs siècles plus tard, et particulièrement à notre époque. On va regarder d'abord au verset 1. Au verset 1, nous apprenons que Daniel a reçu cette vision pendant la troisième année du règne de Balthazar, soit à peu près 550 ans avant la venue du Seigneur Jésus, et 2 ans plus tard, après la vision que Daniel a eue au chapitre 7. Je vais essayer de prendre vraiment mon temps, parce que là, on est en train de lire la vision, mais dans l'explication de la vision, ça va être beaucoup plus facile à comprendre parce que bon, on voit bien que c'est une vision imagée. Qu'est-ce que c'est le bouc, qu'est-ce que c'est le bélier, et ainsi de suite. Mais on va voir qu'à la fin, toutes les pièces du casse-tête ou du puzzle vont se mettre ensemble. Et dans cette vision, Daniel dit qu'il a vu, dans cette vision qu'il se trouvait à Suse, ville forte de la province des Han, au bord du fleuve Doulaï, qui se trouvait au nord du golfe Persique, c'est-à-dire l'Iran moderne aujourd'hui. Il raconte au verset 3 et 4 qu'il avait un bélier à deux cornes qui se tenait face au fleuve. Il dit que les cornes étaient de grande taille, sauf que celle qui avait poussé, la dernière, était plus grande que l'autre. Il a vu le bélier donner des coups de corne en direction de l'ouest, du nord et du sud. Aucune autre bête n'était capable de lui résister, et personne ne pouvait être délivré de son pouvoir. Il faisait tout ce qu'il voulait, comme il le voulait, et sa puissance cessait de grandir. Au verset 5, nous lisons que pendant qu'il réfléchissait, Daniel avait arrivé de l'ouest un bouc à une corne, qui parcourait la terre à une telle vitesse qu'il ne touchait même pas le sol. Ce bouc avait une corne impressionnante entre les yeux. Dans les versets 6 et 7, Daniel a vu le bouc se précipiter de toutes ses forces sur le bélier, s'acharner à le frapper pour lui briser les deux cornes, le jeter à terre et piétiner le bélier qui était incapable de lui résister. Au verset 8, Daniel constate que la force du bouc grandissait de façon considérable. Mais lorsqu'il fut au sommet de sa puissance, sa grande corne se brisa. À sa place, quatre autres cornes impressionnantes poussèrent orientées vers les quatre coins de l'horizon. Dans les versets 9 à 12, Daniel vit sortir de la plus petite corne une nouvelle corne qui étendit sa puissance démesurée vers le sud, vers l'est et vers Israël. Elle se dressait non seulement contre les êtres célestes, mais elle jeta à terre plusieurs d'entre eux, ainsi que plusieurs astres, et elle les foulait aux pieds. Elle s'attaqua même au chef des êtres célestes, supprima le sacrifice qu'on lui offrait chaque jour, et profana l'emplacement de son sanctuaire. Les êtres célestes furent livrés à son pouvoir suite à son intervention injuste. La corne jeta à terre le culte fidèle, elle réussit dans tout ce qu'elle entreprit. Dans les versets 13 à 14, Daniel entend, ça on est en train de lire la vision qu'il a eue. Daniel entend deux anges qui conversaient ensemble. Le deuxième ange demanda au premier combien de temps dureraient les événements annoncés par la vision. Jusqu'à quand le sacrifice quotidien serait-il supprimé? Pendant combien de temps règnerait l'injustice qui dévaste tout, et combien de temps le sanctuaire et les êtres célestes seraient foulés aux pieds? Daniel entendit le premier ange répondre, « Il faut qu'il s'écoule 1150 jours, ensuite le sanctuaire sera à nouveau consacré. » Avec les détails que nous disposons, frères et sœurs, nous sommes maintenant prêts à examiner l'explication fournie par Daniel à partir du verset 20. Mais d'abord, on va lire les versets, on va commencer au verset 15 et 16. Alors que Daniel contemple cette vision et cherche à en comprendre la signification, qu'est-ce qui arrive? Il y a un être qui ressemble à un homme qui vient se placer en face de lui. Il entend une voix venant du feu où l'aïe lui crie d'Al-Kadiriel, explique à Daniel la vision qu'il a eue. Et dans les versets 17 à 19, nous voyons l'ange Gabriel s'approcher de Daniel. Terrifié, nous dit le texte biblique, il se jeta le visage contre la terre. Gabriel lui dit alors, sache que cette vision concerne la fin des temps. Il toucha ensuite Daniel qui avait perdu connaissance et le remit debout en lui disant qu'il allait lui révéler ce qui arriverait au moment déjà fixé, au moment où la colère de Dieu prendrait fin, c'est-à-dire au moment où la patience de Dieu avait atteint ses limites et que Dieu, finalement, le jugement de Dieu va s'appliquer. Au verset 20, l'ange Gabriel va expliquer la vision de Daniel à Daniel. Il lui dit que le bélier à deux cornes qu'il a vu décrit les empires mèdes et perses. Si nous regardons au verset 3, il est possible que la plus grande corne puisse décrire la grande influence que va avoir l'empire perse dans le futur, c'est-à-dire l'expansion que prendra l'empire mélo-perse, illustré par le bélier au verset 4, donnant des coups de corne vers l'ouest, le nord et le sud. Au verset 21, Gabriel dit que le bouc, a dit à Daniel, pardon, que le bouc représente l'Empire grec et que la grande corne placée entre ses deux yeux représente le premier roi qui sera Alexandre le Grand. Le verset 5 nous informe qu'il vient de l'Ouest. La vitesse à laquelle le bouc se déplace au verset 5 reflète bien les conquêtes d'Alexandre le Grand qui, comme il est mentionné dans les versets 6 et 7, va vaincre les Perses lors des trois batailles décisives. Alors, je n'irai pas finalement l'historique de ces trois batailles-là, mais on sait qu'Alexandre le Grand, eh bien, est un chef, un grand chef des nations qui va Largo pouvoir d'une façon rapide, il va vaincre tous ses ennemis. Le dernier qui va vaincre, eh bien, c'est Darius, Darius III. Et il va prendre le pouvoir, mais on va voir que le petit virus, il va être à peine un petit virus. Et finalement, eh bien, il sera emporté par ce petit virus alors qu'il est le maître du monde. Au verset 22, Gabriel mentionne que lorsque la corne sera brisée, quatre autres cornes pousseront à sa place. C'est-à-dire que lorsqu'Alexandre le Grand mourra à l'âge de 33 ans, son royaume se divisera en quatre royaumes. Quatre généraux vont prendre, ça va se diviser, et quatre généraux vont diriger chacun des royaumes. C'est ce que l'histoire nous apprend. Cependant, ces quatre royaumes ne disposeront pas d'une puissance comparable à la sienne. Et dans les versets 23-25, Gabriel informe Daniel que lorsque ces royaumes toucheront leur fin, et qu'Israël aura mis le comble à son péché, un roi arrogant et expert en compris apparaîtra. Et frères et sœurs, ce qui s'est passé au temps de Daniel va se reproduire au temps de la fin. Cela signifie littéralement que cet homme dont Daniel décrit ici va pouvoir interpréter les énigmes. Peut-être qu'il décrit aussi une certaine connaissance concernant la sorcellerie et l'occultisme. Il est aussi écrit que sa puissance va s'accroître, mais sans pourtant que cela vienne de lui-même, ce qui laisse clairement supposer une force diabolique agissant en lui pour lui permettre d'accéder au trône. Il va causer des ravages extraordinaires. Il réussira dans tout ce qu'il entreprendra, allant jusqu'à exterminer les gens puissants et le peuple saint lui-même, nous dit le texte biblique. Aussi mystérieux que cela puisse paraître, nous savons à travers l'histoire qui est cette petite corne. La petite corne de Daniel 8 est un homme appelé Antiochus IV Épiphane. On se souvient surtout de lui pour sa persécution tyrannique des Juifs. Et nous pouvons lire l'histoire détaillée de ses atrocités dans le livre apocryphe de 1 Maccabée dans la Bible. Nous y apprenons qu'il avait une haine féroce et implacable pour tout ce qui était juif. Il a commencé par tenter de les séduire pour qu'il adopte la culture grecque. Et à un moment donné, il va même construire un gymnase à l'extérieur de Jérusalem où des jeunes hommes juifs vont prendre part à des événements sportifs grecs. Ces jeux vont être joués dans la nudité la plus totale, ce qui va favoriser, l'effondrement moral des valeurs hébraïques traditionnelles. Les frères et sœurs, regardez ce qu'on est en train de vivre. Les valeurs traditionnelles sont en train de tomber. Regardez ce qu'on est en train de vivre. Je pense heureusement que les athlètes aujourd'hui portent des vêtements très moulants collant à leur peau pour augmenter la vitesse, soit dans la course ou dans la nage. Sinon, je pense qu'on serait presque en train de voir dans les Jeux Olympiques des athlètes courant nus, comme à l'époque des femmes, nus pour essayer de gagner, remporter des victoires. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le texte biblique nous montre qu'il a tenté de séduire les Juifs pour qu'ils en viennent à adopter une culture bien particulière, et c'est exactement ce que le monde fait aussi, adopter une culture générale, que tout le monde doit être impliqué dans cette culture. Alors, beaucoup de Juifs étaient portés à faire différents compromis parce qu'ils étaient attirés par la culture grecque. Ils voulaient paraître grecs à l'extérieur et juifs à l'intérieur. Et je ne me gênerai pas pour dire ce matin que c'est ce qui se passe souvent dans les milieux chrétiens. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils vivent la semaine, ils paraissent comme les gens du monde, et quand ils viennent à l'église le dimanche, ils paraissent comme des chrétiens dans l'église. Et c'est malheureux, mais c'est une reproduction de ce qu'on a là, et la période dans laquelle on vit, frères et sœurs, ressemble étrangement à la période que les Juifs ont vécu par rapport à la vision qu'a reçue Daniel à son époque. Ce qui est intéressant, ce qui est encourageant, même si Antiochus Épiphane IV a essayé d'amener les Juifs à adopter cette culture générale dans laquelle ils voulaient qu'ils baignent, on doit dire aussi que la majorité des Juifs n'ont pas abandonné la foi. Et lors d'une attaque que ce roi va perpétrer contre Jérusalem pour se venger des Juifs, il ne va pas accepter finalement son système, 40 000 personnes seront tuées et 10 000 personnes seront emmenées en captivité. À un moment donné, Antiochus va mettre fin au sacrifice quotidien qui se pratiquait au temple. Il va systématiquement vider le temple de ses trésors, emportant même l'autel d'or qui servait aux offrandes d'encens et d'aromates et aussi le chandelier d'or. Plus tard, il va placer une statue de Zeus dans le temple et sacrifier un cochon sur l'autel. Ce terrible événement est connu sous le nom d'abomination de la désolation, ou de l'horreur abominable. Dans Matthieu 24:15, Jésus va utiliser le même terme pour décrire les blasphèmes qu'accomplira l'Antichrist à la fin des temps. Antiochus a essayé d'arrêter la pratique de la circoncision qui était au cœur même de la religion juive. Il va aussi ordonner que toutes les copies de la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, soient brûlées. Toute personne trouvée avec une copie était mise à mort. C'est ainsi que s'applique la parole révélée à Daniel au verset 12, lorsqu'il écrit, et lorsqu'il est écrit que la vérité sera jetée par terre. Frères et sœurs, le temps n'est pas loin. Nous, un jour, on fera le procès de la Bible et qu'on aura de la difficulté à pouvoir garder une Bible dans nos mains et avoir même une Bible dans nos maisons. Parce que ce qui est écrit dans la Bible va à l'encontre de toutes les valeurs qui sont promues dans la société. Alors, frères et sœurs, prenez le temps de lire la Bible. Cachez-vous-en en une ou deux quelque part, mais je suis convaincu que le temps vient. Le temps vient au fond, le procès de la Bible. On l'a fait sur le Coran, on va le faire, la prochaine étape, ça va être sur la Bible. Et on dénonce l'homosexualité, on dénonce la fornication, on dénonce finalement ce qui est bien, ce qui était bien à l'époque, qui est devenu mal aujourd'hui. Ça va déranger beaucoup de monde. Possédant une habilité hors du commun, cet homme était adulé par tous au début. Il a utilisé la tromperie, la propagande pour gagner la faveur des gens, au point de réussir à tromper même les Juifs. Et au sommet de sa puissance, il va exterminer beaucoup de gens qui se croyaient en sécurité. Et il va même se dresser contre le prince des princes, c'est-à-dire contre Dieu lui-même. Et c'est alors qu'il sera brisé sans intervention humaine, parce que c'est Dieu lui-même qui le détruira. Et là, on parle vraiment d'Antiochus Épiphanes. Et en même temps, gardez en mémoire que c'est exactement ce qui va arriver avec l'Antichrist à la fin des temps. Au verset 26, Gabriel mentionne à Daniel que l'explication qu'il vient de lui donner se rapportait au sacrifice du soir et du matin. Il lui demande de garder secrète cette vision, car il concerne une époque encore lointaine qui se passerait quelques 400 ans plus tard. Et cette période, eh bien, c'est juste entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament, où il y a une période de 400 ans qui s'est passée, où Dieu n'a pas parlé à personne, Dieu n'a pas dévoilé rien à quiconque, aucun prophète, mais où Dieu travaillait dans l'ombre, puisque pendant ces 400 ans-là, il préparait le venu de la personne de Jésus-Christ. Et c'est dans cette période, la période des Maccabées, que Israël, que cette prophétie va se réaliser, parce que Israël va subir une foudre terrible d'un dictateur épouvantable. Le dernier verset de Daniel 8, le verset 27, nous révèle comment Daniel a réagi face à cette révélation remarquablement détaillée de la persécution future de son propre peuple, les Juifs. Il dit, « Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Lorsque je fus rétabli, je repris mes fonctions au service du roi. J'étais encore bouleversé par cette vision, mais j'en ai parlé à personne. » Frères et sœurs, parmi les quatre visions que Daniel a eues, c'est probablement cette vision, chapitre 8, qui est la plus facile à comprendre, parce que l'histoire confirme que ce qui est écrit dans cette vision, c'est déjà réalisé, une partie s'est déjà réalisée, et une partie va se réaliser. Et on peut résumer le chapitre 8 en disant ceci, Daniel a reçu une vision, parlant d'un bélier à deux cornes. Le bélier représente l'empire des Mèdes et des Perses. Le bouc possédant une corne impressionnante représente la Grèce, à l'époque d'Alexandre le Grand. Le bouc qui a vaincu le bélier symbolise la victoire de la Grèce sur l'empire des Mèdes et des Perses. La grande corne qui se brise subitement représente la disparition subite d'Alexandre le Grand. Les quatre nouvelles cornes représentent les quatre divisions de l'empire grec après la mort d'Alexandre. La petite corne représente un homme qui s'appelait Antiochus IV Épiphanes, qui régna pendant une quinzaine d'années. C'est quelqu'un qui a réellement existé, qui symbolise la venue de l'Antichrist à la fin des temps. Il a persécuté les Juifs, il a pollué le temple de Jérusalem, et il s'est élevé même au point de se prendre pour Dieu. C'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps, avec le dernier Antichrist qui va apparaître. Il était brillant, rusé et charismatique. Il avait un grand pouvoir surnaturel. Il était passé maître pour diffuser de la propagande trompeuse. Il a tenté de renverser Dieu. Il est mort non pas de la main de l'homme, mais par la main de Dieu. Et permettez-moi de simplement vous raconter les détails de sa mort. Après avoir commis ses atrocités en Israël, il a voyagé vers l'Est, espérant conquérir plus de territoire. Et alors qu'il se trouvait à Babylone, il va apprendre que les Juifs, dirigés par l'héroïque Judas Maccabée, aussi appuyés par ses admirateurs Judas le Marteau, avaient repris Jérusalem, chassé les envahisseurs, et entamé le processus de purification du temple. Et lorsque le roi Antiochus Épiphane va apprendre cette nouvelle, il va décider de revenir en Israël dans le but de vaincre une fois pour toutes ces Juifs qui lui causaient énormément de problèmes. Mais malheureusement pour lui, il y a un accident de char qui va arriver et qui va le laisser lourdement handicapé. Et pendant sa convalescence, il va contracter une maladie intestinale répugnante qui dégageait une terrible odeur autour de lui. Une source a rapporté que les vers sont sortis de son corps alors qu'il était en train de se décomposer toujours vivant. Sa vie s'est terminée de façon misérable. Antiochus Épiphane était l'antichrist de l'Ancien Testament et le Hitler de son époque. Sa courte carrière laisse présager la brève période où le futur antichrist prendra le pouvoir sur le monde. Antiochus est la version allégée des vraies choses à venir. Il est l'antichrist avant même que Christ ne vienne sur la terre pour la première fois. Beaucoup de gens se demandent comment l'antichrist pourrait arriver à prendre le contrôle du monde à la fin des temps. Comment voterait-on pour une telle personne, se demande-t-il? Nous avons une image mentale de l'antichrist qui est souvent faussée. Plusieurs le voient comme une sorte de fou furieux, ayant les yeux perçants, mal foutus, sorti d'un film d'horreur, les cheveux ébouriffés, tenant une arme dans ses mains et une mitraillette dans l'autre. Mais la réalité, frères et sœurs, sera bien différente. L'antichrist n'est pas quelqu'un qui se révélait d'un établissement psychiatrique. Au contraire, il apparaîtra comme étant le parfait dirigeant que le monde recherchait. Je suis sûr qu'il sera bien éduqué et avec un esprit spirituel très développé, chaleureux et très charismatique. Il prendra même à cœur nos propres intérêts. C'est pourquoi le monde va l'accueillir. Ce sera quelqu'un qui sera ouvert. Il sera une personne attirante et ses capacités seront illimitées dans tous les sens du terme. Tous ses attributs seront développés dans une personnalité humaine irrésistible. Et pour couronner le tout, il sera entièrement et totalement énergisé par Satan. Il est l'ultime ange lumière qui se fait passer pour un dirigeant bienveillant et sa véritable identité sera rapidement révélée. Que pouvons-nous retenir de tout ceci ce matin? En jetant un coup d'œil en arrière sur le chapitre 8 de Daniel, un certain nombre de choses deviennent évidentes. Premièrement, la certitude que cette prophétie se réalisera. Le chapitre 8 nous donne un aperçu remarquablement détaillé d'une histoire ancienne qui s'est méticuleusement accomplie. Cela démontre une fois de plus que la parole de Dieu est fiable. La lecture de ce chapitre, frères et sœurs, devrait augmenter notre confiance en un Dieu qui connaît l'avenir, parce qu'il lui-même a ordonné ce qui arriverait dans l'avenir. La deuxième chose qui devient évidente quand on jette un regard sur le Daniel chapitre 8, ce sont les possibilités démesurées du cœur tortueux de l'être humain. Le monde aime croire que le temps passe et plus les choses vont aller et plus ça va aller de mieux en mieux. S'il est vrai que le progrès technologique que nous avons connu, qui a connu un essor incroyable au cours du 20e siècle, il est aussi vrai de dire qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui sont morts au 20e siècle que dans tout autre siècle connu de l'humanité. Il est vrai que nous vivons tous les jours avec des machines et des gadgets dont Daniel ne pouvait même pas rêver à son époque. Mais au niveau moral, nous n'avons vraiment pas fait de progrès. Le cœur humain est toujours aussi désespérément méchant et il a encore besoin et toujours besoin de la grâce de Dieu. Nous avons perfectionné l'art de Dieu, nous l'avons rendu plus facile que jamais. Le futur règne de l'Antichrist montrera à quel point l'homme peut devenir méchant lorsqu'il s'est complètement coupé de la grâce de Dieu. La troisième chose qui est évidente dans le chapitre 8 de Daniel, c'est que Dieu exerce même sa souveraineté sur les dirigeants qui ont été diaboliques. Le livre de Daniel met en lumière ce point de différentes façons. Quand Nebuchadnezzar s'est pensé plus grand que Dieu, Dieu l'a envoyé manger de l'herbe avec les vaches pendant 7 ans. Lorsque Balthazar a vu avec arrogance dans les coupes sacrées du temple, la même nuit Dieu reprenait sa vie. À travers l'histoire, nous voyons la main de Dieu agir à de nombreuses reprises. Et lorsqu'il dit aux hommes pervers et corrompus, c'est ici que tout s'arrête pour toi, tu ne vas pas plus loin. C'est exactement ce qui se passe. Cette personne a disparu le jour même de la surface de la mer. C'est ce qui est arrivé à l'époque à Balthazar et en Antiochus IV, Épiphane. Et le jour approche où il fera la même chose lorsque l'Antéchrist aura atteint le sommet de son pouvoir. Nous verrons alors les cieux s'ouvrir et Jésus-Christ descendre avec puissance en disant, c'est ici que tout s'arrête pour toi, tu ne vas pas aller plus loin. Nous verrons alors le Seigneur Jésus vaincre l'Antéchrist une fois pour toutes. Que tous ceux qui appartiennent au Seigneur soient encouragés ce matin, même si nous voyons des gens malhonnêtes et méchants accéder au pouvoir à travers le monde. ils participent malgré eux à faire en sorte que le plan de Dieu s'accomplisse. Et quand leur temps sera écoulé, ils seront abaissés par Dieu et ils disparaîtront de la surface de la terre. Quatrièmement, ce que nous apprenons à travers Daniel chapitre 8, l'Antichrist sera la conclusion logique de l'humanisme du 21e siècle. L'apôtre Jean, dans sa première épître, nous rappelle qu'il y a déjà eu plusieurs antichrists dans le monde. Il existe depuis le début des temps. On peut le lire, hein, ceux qui ont leur Bible. Jean chapitre 2. Je vais le lire. Chapitre 2, verset 8. Verset 18. Mes enfants. Pas 17, hein. Le monde est en train de passer ainsi que tout ce que les hommes trouvent indésiré. Mais celui qui fait ce que Dieu veut vit pour toujours. Mes enfants, la fin est proche. Nous avons entendu dire que l'adversaire du Christ doit venir. Or, maintenant, de nombreux adversaires du Christ se sont apparus. Et nous savons ici que la fin est proche. Et quand on parle de l'adversaire du Christ, on nous dit que l'antéchrist, c'est bien c'est synonyme de l'adversaire du Christ, c'est ce que ça veut dire en français. Et c'est ce que Jean nous rappelle. Il existe depuis le début des temps. L'antéchrist, il sème le chaos et prépare le terrain pour le dernier antéchrist à venir. Quand cet antéchrist sera finalement au pouvoir, ce sera l'apogée de l'humanisme séculier, alors que notre société tente une dernière fois de vivre sans Dieu. Et nous vivons dans une société. C'est une société qui vit sans Dieu. Et frères et sœurs, il est même possible que l'Antichrist soit déjà là et que nos hommes politiques sont en train de préparer la place à travers les lois qui sont votées, préparer la place pour qu'un jour il puisse monter sur le trône. La communauté, l'Union européenne est en train d'essayer de changer ses règlements pour essayer de faire en sorte qu'on arrête de nommer un président, qu'on change de président à chaque 6 mois et qu'on en vienne, je connaissais un peu compliqué, l'Union européenne, mais à chaque 6 mois, vous savez que c'est le président d'un pays, on change le président d'un pays qui gère l'Union européenne pendant 6 mois, et là, on trouve que ça devient compliqué, et on pense finalement d'amener les gens à voter en présentant tous les présidents, en présentant quelqu'un qui pourrait être donné président pour un certain nombre d'années à la tête de l'Union européenne, alors ça se discute, mais frères et sœurs, on est en train de tout préparer, de mettre tout en place pour faire en sorte que cette personne puisse prendre le contrôle. En tout cas, on sait que ça va se passer en Europe, de prendre le contrôle finalement de l'Europe. Et j'avais dit la semaine passée, sans m'étendre là-dessus, qu'il est trop tard pour la société pour revenir en arrière. Et, par rapport aux lois anti-bédiques qui ont été votées, il est très, très difficile maintenant pour retourner en arrière. Pour retourner en arrière, c'est-à-dire ce qu'on vivait dans les années 50. Ce que la Bible, disait, ce qui est bien, et qui était mal à l'époque, et qui maintenant est devenu mal, et le contraire, et il est pratiquement impossible de retourner en arrière avec l'opinion publique, avec les lois. C'est pas juste l'opinion publique, mais c'est les lois qui ont été votées. Et pour renverser ces lois-là, il faudrait que Dieu mette vraiment sa main là-dessus. Moi, ça va vraiment aller vers un monde séculier, vers un monde laïque. Je suis un peu les nouvelles au Québec, c'est le grand débat pour l'instant. D'enlever tout signe religieux pour toute personne qui travaille au sein du gouvernement, c'est-à-dire que ce soit dans la police, que ce soit les pompiers, que ce soit les enseignants dans les écoles, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit tout fonctionnaire, eh bien, on ne peut même plus porter une petite croix comme un pendentif dans le cou, comme on ne portera plus de voile, ni de turban, ni ainsi de suite, et on s'en va vraiment, vraiment vers un monde séculier qui essaye, à travers ces lois-là, d'oublier que Dieu existe, et que finalement, ce monde dépend quand même de Dieu, puisque c'est lui qui le craint. Que tous ceux qui appartiennent au Seigneur soient encouragés, même si nous voyons, comme je l'ai dit, des gens malhonnêtes et méchants qui avaient le pouvoir, ces gens participent quand même au plan que Dieu a prévu. Quand je regarde les dirigeants de notre monde qui prennent des décisions injustes pour affirmer leur pouvoir, je me dis, Seigneur, j'ai besoin que je crois en toi et qu'ils sont quand même en train de finalement de participer à ton plan parce que je serais découragé. Mes frères et sœurs, malgré ce qui se passe dans le monde, on sait bien que le monde dans lequel on vit, ce n'est pas le monde que Dieu a voulu, mais le monde que l'homme a voulu avoir sans Dieu. Et Dieu respecte par amour, Dieu respecte sa créature. Et on voit vers où sa créature s'en va, sans, quand elle ignore son créateur. Mais malgré tout ce qui se passe, malgré la méchanceté des hommes, malgré le travail que le diable fait dans le cœur des hommes, nos dirigeants sont en train de suivre parfaitement le plan de Dieu. Il va exactement, le plan de Dieu va un jour s'exécuter. Mes frères et sœurs, si nous avons fêté, nous avons célébré Jésus-Christ ressuscité il y a quelques semaines, eh bien, on peut regarder la tête en haut parce qu'on va célébrer le retour de Jésus très bientôt. Je t'emmène à ça.
Amen.
Aujourd'hui, le chemin que nos dirigeants sont en train de préparer, eh bien, on cherche l'unité à tout prix, et ce même au départ de la vérité, et là, il est en train d'ouvrir toutes grandes les portes à l'Antichrist, et nous pouvons voir l'esprit de l'Antichrist dans les moqueries que nous entendons sur le christianisme et sur la place publique, au nom du pluralisme et de la tolérance religieuse. J'ai ma belle-fille qui doit visiter les salles de concert, les salles de cinéma, pas de cinéma, mais les pièces de théâtre, et souvent aussi ceux qui font des monologues, les humoristes, soi-disant humoristes. Et c'est incroyable comment on crache sur le christianisme, comment Jésus est abaissé, est ridiculisé. Il fait partie régulièrement des spectacles des humoristes aujourd'hui. Et elle m'a même raconté qu'elle a dû sortir écœurée d'un spectacle d'un humoriste tellement que le Seigneur Jésus a blasphémé. Et que même si la salle ne riait pas, bien on continuait à démolir le christianisme et à démolir la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, on a besoin d'être rattachés sérieusement à la parole si on ne veut pas être ébranlé par tout ce qui se passe dans le monde. Parce que les temps qui s'annoncent devant nous ne seront pas nécessairement faciles. Frères et sœurs, le but de cette deuxième vision de Daniel était d'amener le peuple de Dieu à se préparer parce qu'il allait arriver dans les temps de la fin. Dans les derniers temps, c'est-à-dire de la colère de Dieu. C'est-à-dire lorsque la persécution s'abattra sur Israël dans la fin de la période de l'Ancien Testament, dont j'ai dit, juste avant le retour de Jésus, c'était la période du roi Épiphane IV. Mais la précision remarquable de cette vision devrait nous rappeler le pouvoir de Dieu d'accomplir sa parole. Et en terminant, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Ésaïe, chapitre 46, versets 9 à 11. On va lire les versets 9 à 11. Moi, je vais la lire en différentes versions. Il mélangeait tous les mots. Parce que pour mener au fil en 10 secondes, c'est pas toujours facile à lire. C'est Dieu qui parle. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Donc, souvenez-vous de ce qui s'est passé autrefois. Dieu, c'est moi et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore eu lieu. Et on a parlé de la providence de Dieu il y a quelques semaines, et on a dit que la providence de Dieu, c'était de deux mots, le mot « provu » et le mot « providence », c'est-à-dire « vidéo ». C'est-à-dire que Dieu a visionné le film avant que le film soit, avant que la scène se passe, Dieu a visionné finalement le film. C'est-à-dire que quand Dieu parle que ça peut se passer en l'an 2025, Dieu, avant 2025, après 2025, il est déjà là et il voit le déroulement du film. Dieu ne peut pas faire autrement que nous donner des prophéties s'il n'a pas déjà vu le film. Il ne peut pas nous raconter dans la Bible ce qui va se passer dans le futur s'il n'a pas déjà vu la situation. Et il a déjà vu la situation. Il sait exactement ce qui va se passer. Et il dit, j'annonce dès le commencement ce qui va arriver. Et là, autant d'avance, ce qui n'est pas encore eu lieu, on pourrait dire pourquoi? Parce que j'ai déjà vu ce qui va avoir lieu. Et il dit ceci, voici ce que j'ai planifié. Voici ce que j'ai planifié se réalisera. Et tout ce que je veux, je l'accomplis. Pas un petit peu, pas ce que j'ai prévu, ça va peut-être s'accomplir, ou la moitié va s'accomplir. Tout ce que j'ai prévu va s'accomplir. De là-bas où le soleil se lève, je convoque un oiseau de proie. C'est l'homme qui accomplira mes plans. Je l'appelle d'un pays éloigné, aussitôt dit, aussitôt fait, plan conçu, plan exécuté. Frères et sœurs, au moment bien précis où l'Antichrist va devoir apparaître, vous pouvez être certain que c'est ça, le moment que Dieu a choisi qu'il apparaisse, ce sera le moment où il va apparaître. Frères et sœurs, nous allons vivre des moments extrêmement difficiles. Si vous lisez votre Bible, vous vous rappelez que dans l'Épître aux Thessaloniciens, le Seigneur, le jugement de Dieu, c'est qu'il va envoyer un esprit d'égarement sur le monde pour empêcher les gens de se convertir. Ça, ce sera le jugement de Dieu à la fin du temps. C'est épeurant. Et l'apôtre Pierre nous dit que le ménage, Dieu va d'abord le faire dans sa maison avant de le faire dans le monde. Et frères et sœurs, c'est un avertissement sévère pour nous de garder nos yeux fixés sur la parole avant que la parole ne devienne finalement quelque chose qui nous est indifférent. Frères et sœurs, c'est bon ce matin de se rappeler que Dieu nous a laissé un trésor. Son trésor, c'est la parole. Dieu nous a donné un trésor qui nous parle du passé, qui nous parle du présent et qui nous parle de l'avenir. Et dans les trois cas, à travers les prophéties, tout ce qu'il avait prédit, eh bien, elles se sont réalisées. Alors, ce qu'il avait prédit dans le passé, ça s'est réalisé. Ce qu'il avait prédit pour le présent, eh bien, c'est en train de se réaliser. Et ce qu'il a prédit pour le futur, vous pouvez être certain que ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Frères et sœurs, ce qui est important pour nous, c'est est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à voir apparaître le Seigneur Jésus-Christ? Et à monter avec lui dans le ciel, c'est ce qu'il nous promet, n'est-ce pas? Et avoir ce monde, cette misère dans ce monde, et se terminer, et de voir la gloire de Dieu se manifester à tout jamais. Frères et sœurs, cette vision de Daniel, il était courte ce matin au niveau des explications, parce qu'il n'y avait que ça dans ce passage. On verra la semaine prochaine l'importance de la prière dans le chapitre 9. Et frères et sœurs, il n'y a pas que la parole de Dieu, la lecture de la parole, la méditation de la parole de Dieu qui est importante. Et le temps de prière que nous prenons avec le Seigneur, le temps, le dialogue que nous avons avec lui à travers notre temps de prière, qu'il soit petit notre temps de prière, qu'il soit moyen, qu'il soit grand, pensons à prendre le temps de prière avec Dieu, parce que Dieu aime entendre la prière de ses enfants. Amen.